1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce jeudi 6 juin, jour historique. On prolonge donc cette matinale spéciale D-Day sur Europe 1, avec vous, amis auditeurs, avec vous, Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Cette question et ce thème qui nous réunit depuis 75 ans, comment ce débarquement se raconte à l'école, dans la littérature, au cinéma, même en bande dessinée? Eh bien nos invités sont là pour nous éclairer. Ils ont créé des blogs nourris sur ce jour J, une collection Overlord chez Glénat. Ils n'ont cessé de transmettre la tension, la stratégie, l'espoir dans des documentaires pour la télévision, tout cela lié à cet événement charnière de l'histoire mondiale. N'hésitez pas à venir nous dire aussi comment vous, vous en avez appris davantage sur ce jour J et ce qui vous reste encore en inspiration du cinéma à la littérature. Et puis à 10h, à l'approche des épreuves du bac, on va parler de la timidité. Sensible ou maladive, comme on dit, pourquoi est-on ou devient-on timide? Est-ce qu'on peut en guérir? Et que dit cette timidité de notre place en société? Là encore, on fait le tour de la question sur Europe et vous pouvez témoigner.
On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute, et on vous lit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et il y a 75 ans débutait la plus grande opération militaire jamais réalisée. Des jeunes hommes venus des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de tout le Commonwealth. Ici Londres, les slangolons des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. On parlera notamment de ces messages codés. Bonjour Jean-Christophe Rosé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui avez réalisé bien des films et documentaires sur cette époque, notamment 6 juin 1944, La lumière de l'aube pour France Télé et puis La guerre des images pour Arte. Nous sommes également en ligne avec Bruno Falba, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes scénariste et libraire, auteur d'une série formidable dont je parlais à l'instant, en BD, Opération Overlord, qui est une plongée en 6 tomes, ça fait 10 ans que vous y travaillez sur ces 6 tomes, au cœur de la plus grande opération militaire de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc réussi dans le détail à nous porter dans cette tension avec la force de l'image de la BD, et le dernier tome que vous publiez ces jours-ci, c'est Une nuit au Barkov. On est dans le nid d'aigle d'Hitler, et justement la scène que relatait l'un de nos journalistes, Thierry Géfrotin, ce Führer qui est réveillé en pleine nuit parce que l'opération débarquement des Alliés semble prendre forme. On est vraiment au cœur de l'intrigue que vous relatez dans cet ouvrage.
Oui, ce qui était incroyable, c'est de voir comment les Allemands ont été complètement débordés, contrairement à ce qu'on pouvait le croire.
Complètement. Et vous pouvez continuer, Bruno.
Pardon.
Je vous en prie.
Petite coupure.
Oui.
Donc le dispositif de défense allemande était en fait complètement débordé par une opération qui était incroyable et la plus grande de tous les temps.
Et une opération qui n'était pas tout à fait dans l'esprit d'Hitler. Il ne croyait pas, lui, en un débarquement sur ces plages normandes. Il pressentait davantage un débarquement dans le Pas-de-Calais, voilà, pour qu'il ait fait renforcer aussi le mur de l'Atlantique. Il se trouve que vous avez raconté précisément, et dans le détail, Jean-Christophe Rosé, ces changements de stratégie de part et d'autre. Et c'est magnifique de voir comment le secret a pu être gardé côté allié jusqu'au bout, alors que l'espionnage et le contre-espionnage étaient vraiment des arts poussés à l'extrême.
Mais d'abord, si je puis me permettre, c'est la plus grande opération amphibie de la guerre. Mmh. Pas la plus grande opération de la guerre, parce qu'il y a eu des batailles en Russie qui mobilisaient plus d'hommes. Elle a eu la particularité d'avoir lieu sur le sol français, qui était un pays qui a eu un rôle un peu effacé pendant la guerre. Donc elle a pris tout de suite un relief formidable. Elle résonne chez nous. Et effectivement, ça ne s'est pas passé que le 6 juin. Ça a été préparé des années à l'avance, 3 ans avant. Mm-hmm. Et il y a eu non seulement une mobilisation matérielle, mais il y a tout ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire une opération de contre-espionnage, d'espionnage, de propagande, d'intoxication, qui ont été extrêmement prégnantes et qui ont joué un grand rôle avant le déclenchement même des opérations, qui fait qu'effectivement, jusqu'au dernier moment, avec tous les leurres qu'on lançait, les petites escadrilles de bateaux qu'on envoyait en éclaireur vers le Pas-de-Calais, jusqu'au dernier moment, les Allemands n'ont pas su, jusqu'à ce fameux 6 juin, où, pour ça que le film d'ailleurs s'appelle « La lumière de l'aube », mm-hmm. Il fallait en plus que les bateaux arrivent, soient devant les Allemands, quand le jour se lève,
Et pour l'effet de surprise extrême.
Pour que cet effet de surprise joue à fond. Et ça a été relativement réussi au niveau du timing de l'arrivée des bateaux. Par contre, l'arrivée des bateaux et des barges sur les plages elles-mêmes, qui nécessitaient des calculs fous avec la marée, le temps,
bien
la
sûr.
Lumière. Là, il y a eu quelques problèmes, et notamment à Oama, où l'arrivée des Américains était difficile, voire sanglante, et a failli tourner à l'échec.
Grande opération Neptune, opération amphibie et opération de puissance maritime. 7 cuirassés, 23 croiseurs, 3 torpilleurs, 1000 vaisseaux de guerre, 4000 navires et péniches de débarquement, 864 navires marchands transportant troupes et ravitaillement pour ce jour le plus long. Marc Laurenceau, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Créateur d'un site absolument passionnant, je recommande à ceux qui sont à la maison de regarder en même temps que cette émission, ça s'appelle D-Day-Overlord.com. C'est vraiment un site que vous dédiez à ce jour J, et vous nous rappelez d'ailleurs un petit peu le béaba, mais pourquoi on appelle ce jour du 6 juin le jour J? Ça, c'est du langage militaire.
Exactement, c'est un mot code, évidemment, toute l'opération, ça vient d'être dit, repose sur le secret, le secret du déclenchement, et donc dans le code militaire, quand on veut désigner à un moment donné le point clé de l'attaque, le moment, le déroulement, c'est le jour J, et on parle également de heure H pour le début de l'assaut, et donc on comprend pourquoi on utilise le mot anglais D-Day, qui fait évidemment référence maintenant, qui est un lieu commun du débarquement.
Vous qui avez plongé avec passion dans l'histoire charnière de cet événement, qu'est-ce qui explique qu'on en parle autant dans l'imaginaire aujourd'hui collectif, et bien sûr français, mais aussi dans le monde entier, Marc Laurenceau?
Alors c'est pour les Français en particulier le début de la libération, clairement, même si la Corse avait commencé déjà à être libérée. Mmh. Et puis de manière internationale, c'est aussi grâce à, vous allez probablement en parler, mais grâce à Hollywood qui a très tôt désigné le débarquement en Normandie dans la Seconde Guerre mondiale comme un événement majeur. Et donc on va avoir des films, évidemment Le Jour le plus long, mais plus tardivement Le Soldat Ryan, des séries comme Band of Brothers, mm-hmm. qui ont participé à populariser ces événements. Et il y a une véritable volonté, selon moi, aussi politique, pour rassembler les chefs d'État en Normandie depuis 1994,
oui.
pour donner aussi une dimension politique, pour rassembler les pays alliés autour du thème du débarquement, de la réussite d'une opération où chacun a mis ses différences de côté pour mettre un terme à l'occupation nazie. Et donc je pense que c'est aujourd'hui cette valeur-là qu'on peut encore célébrer et qu'on continue de célébrer aujourd'hui.
Bruno Falba, vous qui êtes scénariste et auteur de cette série BD Opération Overlord, pourquoi avoir décidé de dédier vous aussi 10 ans de votre vie avec une équipe de scénaristes et de dessinateurs sur cette opération Overlord en particulier?
Mais tout simplement par devoir de mémoire et la bande dessinée comme support pour toucher un large public plutôt jeune et ado et bien sûr adulte, en touchant un large panel de personnes, car nous sommes tout de même dans le monde de l'image actuellement, et la bande dessinée était pour moi le meilleur moyen de pouvoir parler de cet événement qui a changé le cours du monde.
Tout ce que vous relayez, les dialogues, je pense en particulier, on évoquera des scènes assez précises, sont issus d'une littérature documentée, mais aussi de récits, de témoignages.
Oui, je me suis appuyé principalement sur les témoignages des vétérans qui ont participé à l'opération.
D'accord.
Au travers de livres. J'ai rencontré des parents, peu de véritables vétérans, tout bonnement parce que nombreux sont partis. Et ensuite, j'ai créé 3 personnages en moyenne par album afin de créer des liens entre chacun d'entre eux et pouvoir ainsi lier toute l'histoire sans que ce soit uniquement factuel. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai procédé de cette façon-là.
Opération Overlord, dirigée par le général britannique Montgomery, commandant la première armée américaine du général Bradley et la seconde armée britannique du général Dempsey. On va revenir jusqu'à 10 heures sur la manière dont justement la culture populaire a tâché de raconter cet événement de notre histoire. Événement charnière, ce D-Day, le 6 juin 1944, 75 ans après, nos invités sont mobilisés sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau. Comment les arts, le cinéma, la BD ont raconté au public le débarquement, la plus grande opération militaire amphibie de la Seconde Guerre mondiale. Wendy Bouchard.
En effet, cette imagerie traduisant cette incroyable opération sur les plages normandes dans les premières lueurs de l'été, malgré une météo apocalyptique, et l'intuition du général Rommel des troupes allemandes, si clairement retranscrite dans le film culte, vous parliez d'Hollywood, Marc Laurenceau, Le jour le plus long, nous sommes en 1962. Écoutez cet extrait.
Comme c'est paisible, comme c'est tranquille. Un petit bras de mer entre l'Angleterre et le continent, entre nous et les Alliés. Mais derrière cet horizon paisible, un maelstrom. Un énorme dispositif fait d'hommes, de navires et d'avions. Une masse prête à être lâchée sur le continent. Mais messieurs, pas un seul anglo-américain ne devra atteindre le rivage. Pas un seul soldat allié ne devra mettre le pied sur les plages. Ce débarquement... Messieurs, quelle qu'en soit la date et les lieux, c'est là, exactement là, sur le bord de la mer, que je me propose de le repousser, de l'écraser. Vous pouvez m'en croire, messieurs, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives. Aussi bien pour les Alliés que pour les forces allemandes, ce sera le jour le plus long. Le jour le plus long.
Et voilà pourquoi le jour le plus long est entré dans les mémoires, Jean-Christophe Rosé. Il y avait cette intuition de Rommel et il y avait l'intuition d'Hitler qui ne croyait pas à ce scénario. Car pour lui, un débarquement devait se faire à côté d'un port et sur les plages de Normandie, il n'y en avait pas.
Oui, c'est-à-dire que Rommel a très vite compris quand les premiers prémices de l'attaque se sont fait sentir que c'était effectivement en Normandie. Hitler, jusqu'au dernier moment, a hésité. Comme ça, du coup, il pouvait faire croire qu'il avait toujours raison. Un jour, il disait que c'était le Pas-de-Calais, l'autre jour, il disait que c'était peut-être la Normandie. Et donc, Rommel était beaucoup plus efficace et surtout, il avait eu l'idée de positionner les chars allemands, quels qu'ils soient, plutôt près du Pas-de-Calais et de la Normandie, alors que Rundstedt, leur général en chef, voulait les avoir plus à l'arrière du front pour pouvoir réagir, ne serait-ce que s'il y avait un débarquement en Provence et tout ça. Ils ne voulaient pas concentrer leurs forces tout leur temps qu'à cet endroit-là de la France. Donc,
Oui, et pourtant, Marc Laurenceau, très vite, l'option du débarquement en Normandie sera celle choisie par Eisenhower et Montgomery. Hein. C'est une force de débarquement importante sur un front de 60 km. Toute la matinée, Europe 1 vous a redéfini cette longue ligne de plage entre Gold, Juno Beach, Obama Beach, Utah Beach. C'était presque inimaginable, mais ils ont conçu cette opération avec l'idée de ports artificiels. Et ça a été une conception incroyable d'ingénierie aussi.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un ensemble. On voit le but des Alliés est de trouver effectivement une plage pour débarquer. Alors, ce n'est pas le premier débarquement des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. On veut dire que le débarquement en Normandie est un aboutissement de différentes expériences, notamment leur débarquement en Afrique du Nord, en Sicile et puis en Italie. Et en fait, le débarquement de Normandie, le choix de la Normandie se fait justement parce qu'ils savent que les Allemands les attendent dans le Pas-de-Calais. Alors, ils pensaient également à la Hollande, mais l'arrière-pays est inondé, donc ils auraient du mal à faire venir de la logistique. La notion de logistique est vraiment prégnante du début à la fin de la préparation. On voit qu'en Bretagne, les côtes sont trop éloignées, trop rocailleuses, ne sont pas favorables à des opérations de débarquement de grande ampleur. La Normandie est ce qui leur semble le plus favorable, mais tout de suite, ils doivent s'emparer de ports en eau profonde. Alors, il y a Le Havre, il y a Cherbourg, mais c'est encore loin. Au début de la préparation, les Alliés n'ont pas 5 plages, mais tablent sur 4 plages.
Oui.
Le général Montgomery propose de créer la plage de Utah, qui se trouve dans le Cotentin, de manière à ce que les troupes alliées puissent s'emparer au plus vite, au plus tôt, de Cherbourg.
Mmh.
Et donc, tout de suite, la manœuvre logistique... Elle est à la base de toute l'opération Overlord, puisqu'il va faire venir du carburant, va faire venir des ravitaillements en munitions, en vivres, et qu'il y a ce grand écart de la Manche qui les empêche de relier l'Angleterre, qui est cette base arrière, jusqu'en Normandie, qui est le lieu du front. Et donc, effectivement, les Alliés très rapidement mettent en place, en moins d'un an, 2 ports artificiels, mais également toute une opération logistique pour faire venir des pipelines sous-marins et des plots de ravitaillement logistique pour faire venir du carburant, mais également des pistes aériennes qui vont être construites en quelques jours pour évacuer les blessés, faire venir du ravitaillement et puis appuyer les troupes alliées.
Bien sûr, évidemment, parce qu'il faut débarquer les premiers hommes et que les troupes suivent, que le matériel suive immédiatement. Dans votre BD et dans ce tome 6, Opération Overlord, une nuit au Berghof, Bruno Falba, on voit Hitler déchirer les messages codés des alliés qui ont été interceptés par ses militaires, notamment ceux-ci, les dés sont sur le tapis, il fait chaud à Suez, et puis cette formule fameuse, les sanglots longs des violons de l'automne. Hitler qui déchire ces messages parce que c'est du charabia pour lui, c'est authentique.
Exactement. Il se trouve quand même que les services secrets allemands avaient déchiffré et compris que le débarquement allait avoir lieu en Normandie très tardivement, certes, mais ils avaient quand même mis le doigt sur le problème.
Et intercepté le mot Overlord, hein, opération Overlord.
Ils savaient ce que c'est. Oui. Et Hitler n'a absolument pas cru en ces messages, heureusement.
On se retrouve dans un instant pour voir comment cette culture, à la fois la filmographie assez intense sur le sujet, américaine, anglo-saxonne en particulier, nous a plongé dans cette histoire mondiale et nous a permis de génération en génération à en parler. Nous nous retrouverons juste après la pause Thierry Geffrotin qui depuis ce matin nous fait un petit peu le compte-rendu heure par heure de ce jour le plus long qui est normand d'origine et qui a grandi aussi dans cette histoire si particulière que lui a transmise en particulier sa maman. Il viendra en témoigner. A tout de suite sur Europe 1 avec nos invités Marc Laurenceau qui a créé le site didayoverlord.com et Jean-Christophe Rosée, réalisateur de films et de documentaires. On reparle de ses œuvres dans un instant.
Le tour de la question sur le D-Day, le jour J, le 6 juin 44. On est ensemble pour en parler jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Avec nos différents invités, Bruno Falba, auteur de la série BD Opération Overlord, qui est une plongée dans cette opération militaire le jour J du 6 juin 44. Jean-Christophe Rosée, on va parler dans un instant de votre documentaire diffusé sur France Télévisions, que vous trouvez aujourd'hui encore en DVD, 6 juin 44, La lumière de l'aube. Et Marc Laurenceau, créateur du site didayoverlord.com. Je suis très heureuse de vous retrouver, Thierry Geffrotin, vous qui suivez depuis l'aube ce matin, très précisément, et heure après heure, justement, le déroulé de ces opérations. Bonjour Thierry.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Alors là, j'ai des questions un peu plus personnelles à vous poser, car on parle de la manière dont la culture a permis depuis 75 ans de raconter le débarquement. Vous êtes né en Normandie, une terre qui porte ses stigmates, et vous le savez si bien. Comment, dans votre culture familiale et dans la culture populaire, vous avez-vous grandi, comme tant d'enfants, avec dans l'esprit ce qui s'est passé ce jour J et les jours d'après, évidemment?
Alors c'est vrai que la bataille de Normandie, parce que c'est pas seulement le 6 juin, la bataille de Normandie font vraiment partie de ma vie, même si je n'étais pas né. Mais mes parents étaient là en 1944, mes parents étaient nés en 1920 et 1923, c'est-à-dire qu'ils avaient 24 ans et 21 ans. Ma maman, à qui j'ai un jour osé tendre le micro et qui m'a raconté ce qu'elle n'avait jamais raconté, était voilà, à Caen lors des premiers bombardements, puisque les premiers bombardements le 6 juin sur la ville, et il y en aura plusieurs, sont à 13h30. Mm-hmm. Donc moi j'étais bercé de manière naturelle par tout ce que mes parents avaient vécu, mais c'était pas comme une leçon d'histoire, ça faisait partie de leur vie. Par exemple là je suis à Romanche où la matinale s'est déroulée avec Mathieu Béliard, et moi c'était l'endroit où je venais avec mes parents pour revisiter, j'ai dû le voir 10 fois, le premier musée qui a ouvert en 1954, le musée du port artificiel. Et d'ailleurs, quand mon fils a eu 13 ans, j'allais dire je l'ai traîné. Non, je l'ai emmené visiter ce musée parce qu'il est très bien fait. Il y a des maquettes pour un adolescent. Je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans cette histoire du débarquement. Mmh. Donc j'ai moi-même transmis cette forme de mémoire. Pour la petite histoire, alors j'étais tout petit, mais j'ai assisté à des scènes du tournage du jour le plus long. À Bénouville, oui. Quand on voit les Orsas, les planeurs qui atterrissent, alors dans le tournage, on a juste, j'ai le souvenir juste de ces soldats qui sortent des planeurs, et une scène dans le film où on voit des Allemands qui tombent depuis le pont de Pegasus dans le canal. J'avais 5 ans, je m'en souviens. C'est aussi une manière pour moi d'avoir... pas revécu, mais en tout cas d'avoir compris ce que c'était que ces moments de la vie de la Normandie qui ont été si déterminants. J'ajoute que mon papa m'a emmené à Ranville. Alors moi j'étais plutôt dans le Calvados, donc Sainte-Mère-Église pas trop, mais à Ranville sur les plages, c'est-à-dire Hermanville, les plages anglaises et canadiennes, à Ouistreham évidemment, où les commandos Kieffer ont débarqué. En fait, je me rends compte aujourd'hui que d'une certaine manière, mes parents l'ont fait de manière, je n'ose pas dire intelligente, mais sensible. C'est-à-dire que je porte en moi cette mémoire du débarquement. J'ai beaucoup lu aussi, évidemment. Je me souviens d'un des premiers livres, c'est paradoxalement The Common, c'est-à-dire le débarquement, l'invasion vue du côté allemand, qui est un livre qui est paru en 1960, c'est-à-dire à la même époque d'ailleurs que le livre Le jour le plus long de Cornelius Ryan. Donc j'ai lu, mais j'ai surtout eu cette espèce d'éducation, mais le mot est noble pour moi, qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, je transmets cette mémoire.
Eh ben, merci, restez avec nous Thierry Geffrotin, parce qu'on transmet aussi à nos auditeurs, en effet, vous évoquez dans votre bibliographie cet ouvrage, Marc Laurenceau, pour mieux savoir et mieux connaître l'architecture, la prouesse de cette opération Overlord, vous recommandez quel ouvrage accessible à chacun aujourd'hui?
Alors, la bibliographie du débarquement est particulièrement dense, hein. Elle est très riche. Vous avez, moi, je conseillerais très simplement le livre de Anthony Bevor, qui s'appelle tout simplement D-Day.
Qui est une référence.
C'est vraiment la référence parce qu'elle retrace l'intégralité des actions. Mais également un livre qui est méconnu, mais tout simplement en fait le livre Le jour le plus long de Cornelius Ryan qui a été à l'origine du film, qui comporte énormément d'autres détails, donc évidemment des détails qui ont été repris pour le film, mais d'autres détails qui ont un vrai sens historique, qui sont un peu méconnus, mais qui sont qui reprennent le débarquement dans la globalité. Et après, je insisterai sur le fait que le débarquement n'est pas la seule journée, mais que le début.
Évidemment.
Et donc le l'avantage du livre d'Anthony Bevor, c'est qu'il va également s'intéresser aux 90 jours suivants.
Merci. On fait une petite pause et on se demande comment on filme justement ces moments forts de l'histoire avec notre autre invité, Jean-Christophe Rosé.
75 ans nous séparent du débarquement des Alliés en 1944 sur les plages normandes. L'opération Overlord continue d'inspirer cinéastes, scénaristes et dessinateurs. Wendy Bouchard.
Et documentariste, car heureusement que la télé nous permet aussi avec ses documentaires et ses bases d'archives de mieux comprendre l'intensité de cette opération, ce qui s'est passé dans ces heures historiques. Comment filme-t-on la guerre et des événements comme ceci? C'est la question que je vais vous poser, Jean-Christophe Rosé, après avoir entendu un extrait de votre documentaire qui a repassé il y a quelques jours sur France Télé, 6 juin 44, La lumière de l'aube, qu'on trouve aujourd'hui en DVD avec la voix de Samuel Le Bihan.
6 juin 1944, un jour gris se lève sur la Manche, dévoilant un spectacle sidérant. Petit matin, après un déluge de feu, les hommes vont débarquer sur les côtes de France. 20 000 d'entre eux arrivent aussi par la voie des airs. . 10 500 soldats alliés perdus ce jour-là, et presque autant du côté allemand. 11 semaines plus tard, Paris sera libéré et la route de Berlin ouverte.
Ce documentaire, le 6 juin 1944, vous l'avez réalisé avec l'œil du réalisateur, mais aussi l'enfant de cette histoire, Jean-Christophe Rosé. Vous l'avez écrit et pensé dans quelle philosophie, ce 6 juin 44, La lumière de l'aube?
Je l'ai pensé de façon très simple, dans l'idée de faire un film sur le débarquement, comme c'était quelque chose qui avait déjà été fait, que l'on connaissait un peu. J'avais donc décidé de l'axer plutôt autour des opérateurs qui ont filmé le débarquement, autour de la personne de quelques-uns de ces cinéastes, parce que le débarquement a été couvert par quelques caméramans américains et une dizaine de caméramans anglais, qui avait été très bien préparé d'ailleurs en Angleterre à l'école du cinéma des armées, parce qu'on n'arrive pas comme ça pour filmer un débarquement sans y être préparé. Ils ont partagé la vie des soldats pendant des mois avant, ils ont été rattachés à certaines unités, et ce sont ces gens-là qui ont filmé le débarquement, et à travers leurs clapes, sur lesquelles est écrit le lieu, l'heure, on avait des références vraiment historiques très précises de ce qui s'était passé. Et à partir de là, on peut remarquer, c'est ce qui m'a frappé, c'est-à-dire que pour un cinéaste, le débarquement, enfin un documentariste, est un peu décevant, d'abord parce que ces cinéastes tout courageux qu'ils étaient n'étaient pas avec les premières vagues. Ils sont arrivés avec les secondes. Mm-hmm. Parce que les premières vagues, c'était trop risqué. On ne savait pas ce qui allait se passer et tout. Donc, les premières personnes qui ont mis le pied sur la terre de France n'ont pas été filmées, sauf sur une plage à Juneau, où on voit les Canadiens qui arrivent. C'est un très beau plan.
Oui.
Qui s'approche de la côte et la barge qui s'ouvre et qui découvre la première maison qui sera libérée en France.
Avec une caméra embarquée.
Voilà, ouais. Mais c'est une caméra embarquée qui est placée sur leur bord et qui filme de façon automatique. Et
l'image est incroyable. Ouais.
Donc il y a eu ces deux choses qui m'ont frappé, pas de premiers arrivants. Et la deuxième chose, c'est que dans ce maelstrom qui a été le débarquement, il y a eu des dégâts collatéraux, pellicules graves. Et si vous voulez... Capa, qui était le grand photographe du moment, qui était à Oama, a fait, je ne sais pas, 1000 clichés. Quand il les a envoyés en Angleterre, il y a eu des problèmes de développement. Il en est resté très peu et pas les meilleurs. Et donc, vous savez, ce soldat qui débarque au milieu des croisillons un peu flou et tout, est devenu un espèce de mythe parce qu'on ne le reconnaît pas, mais on peut projeter beaucoup là-dessus. Et idem pour la pellicule. Les caméramans qui tournaient n'avaient pas le temps de ramener leur boîte au bateau. Donc, il y avait un officier qui les recueillait comme ça, qui les mettait dans les sacs et qui, lui, les apportait sur les bateaux au rivage pour qu'ils soient développés. Et à Oama, son sac est tombé dans l'eau, ce qui fait que tout a été détruit, sauf les bobines d'un caméraman qui avait été blessé, qui les avait gardées par devers lui et qui a pu les faire.
C'est vraiment de l'ordre du miracle à chaque fois sur le fil. Hein, ouais.
Donc, ouais. Voilà, il y avait aussi cette histoire des éléments filmés de ce débarquement qui ont eu aussi des aventures et pas toujours heureuses.
De la fragilité du témoignage. Marc Laurenceau, le premier homme qui débarque sur les plages françaises, c'est à quelle heure, à l'aube de ce 6 juin 1944 ? Est-ce qu'on le sait précisément ?
Oui, alors on a des comptes rendus très précis. Alors les premiers soldats concrètement débarquent alors à 4h15 exactement, sur une petite île qui se trouve au large de Saint-Marcouf, qui s'appelle l'île du Large. Donc c'était des 4 soldats américains qui étaient là pour déminer, en tout cas pour reconnaître une plage, puisqu'elle était en plein cœur des zones de mouvement amphibie. Bon, il s'avérait que les Allemands n'avaient pas occupé cette plage, mais l'avaient simplement minée, et donc ils ont levé le doute en tout cas. Le gros des troupes est arrivé à compter de 6h30 à Utah. Et ensuite, ça se fait en fonction des marées. Donc on a les premiers débarquements qui se font à 6h30 à Utah et Omaha, qui sont les deux plages américaines les plus à l'ouest. Et ensuite, ça va se faire progressivement. Alors, vous avez le débarquement à 7h20 des commandos, notamment le commando Kiefer à Sword Beach, face à Colville. Puis, vous avez le débarquement à Gold Beach et en dernier, les Canadiens, vers 7h40 à Juneau.
Alors là, c'est très bien parce que c'est l'opération amphibie, le débarquement, les hommes qui arrivent avec la précision que vous nous donnez, Marc Laurenceau, sur ces plages. Mais il y aura évidemment l'appui des divisions aéroportées dont on va parler, les bombardements qu'évoquait Thierry Geffrotin, ces opérations conjointes qui permettent de surprendre l'ennemi, l'adversaire, en ce 6 juin 1944. Et vous avez entendu repréciser dans le doc de Jean-Christophe Rosé qu'il aura fallu 11 semaines avant d'atteindre Paris, de libérer Paris. Donc 3 mois de combat aussi dans le bocage normand. En particulier vont suivre à l'issue de ce jour le plus long. A tout de suite sur Europe 1, Thierry Geffrotin, je vous redonne la parole juste après la pause. Bruno Falba également pour la série bande dessinée Opération Overlord. Marc Laurenceau, que vous entendiez, a créé un site passionnant qui est une encyclopédie vraiment du débarquement, d'idées-overlord.com, et Jean-Christophe Rosé, réalisateur de films et de documentaires. A tout de suite.
Comment le débarquement se raconte depuis 75 ans, Wendy Bouchard et ses invités sur Europe 1.
Capital dans le cours de l'histoire, on se réunit et on prolonge la matinale spéciale d'Europe 1, qui était en direct d'Aromanche, pour comprendre en effet comment cette histoire se partage. Ce qu'on retient aujourd'hui de la culture à la fois cinématographique, des documentaires télévisés, Jean-Christophe Rosé en parlait du sien, je vous conseille un très bon atlas du débarquement aux éditions Atlas, justement, le D-Day, comme le D-Day d'Anthony Beevor, qui est un peu la Bible et dont nous parlait Marc Laurenceau. Thierry Geffrotin, nous on vous retrouvera dans quelques minutes parce que vous nous donnez donner heure après heure le timing de ce jour le plus long. Et on reviendra justement sur le timing, est-ce que ça a été une réussite ou pas sur l'entrée dans les terres. En tout cas, pour cette culture livresque qui nous intéresse, vous avez dit avoir été aussi baigné dans cette culture-là. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, comment chacun s'accapare d'une certaine manière ce débarquement et en fait une lecture un peu propre parfois.
Oui, alors ce qui est assez frappant aussi, c'est que depuis quasiment la fin de la guerre, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les opérations militaires et il a fallu attendre assez longtemps, et moi je suis sensible évidemment à ces livres, pour parler des civils.
Oui.
Puisqu'on parle toujours des chiffres énormes de cette invasion, puisque c'est ce que disaient les Anglo-Saxons, pas seulement les Allemands, mais ouais, c'était au cœur d'un pays qui était habité. Je vous parlais de mes parents tout à l'heure, ma maman racontait qu'elle était à Caen le 6 juin et ils ont vite quitté la ville de Caen. Qui ne fait pas partie des villes rasées. La ville a été détruite à 60%, mais il y a des villes qui ont été rasées comme Saint-Lô, comme Lisieux, puis des tout petits villages.
Oui, et là, Thierry envoyaient des petits messages par avion pour demander aux civils d'évacuer.
Les messages en question, c'était quitter cette ville. Quand vous habitez Villers-Bocage, quelques centaines d'habitants, vous ne vous sentez pas concerné.
Bah, oui.
Plus les tracts qui sont tombés dans les champs. Mais bref, je reviens à ce que je voulais vous dire, à savoir que finalement, les historiens se sont intéressés, non pas que tout était dit sur les opérations militaires, mais depuis quelques années, aux civils. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail d'un historien qui s'appelle Jean Kélien, qui a été professeur à l'université de Caen, parce qu'après la guerre, il y a eu des espèces de chiffres qui sont sortis de nulle part, où on disait qu'il y avait eu 50 000 morts civils en Basse-Normandie, et c'était ancré dans l'histoire. C'était vraiment la table de la loi. Et Jean Kélien, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le débarquement, la bataille de Normandie et les civils, a fait travailler l'université du Troisième Âge. Ça s'appelait comme ça à l'époque, de l'université de Caen. C'est donc des personnes qui étaient parties prenantes. Et il les a amenés, alors un travail d'historien, à refaire toute l'histoire de ce que c'était que les victimes civiles. Et finalement, le nombre de morts est beaucoup moins important, mais il n'en demeure pas moins que les trois départements bas normands, l'Eure aussi, la Seine-Maritime avec le Havre, qui a quand même souffert le martyr. Mais c'est un travail qui est arrivé beaucoup plus tard, je dirais il y a maintenant presque 30 ans, 25 ans, à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement. Alors il y a déjà une génération qui était passée, c'était plus facile de dire non, il n'y a pas eu 50 000 morts, il y en a peut-être eu 15 000, il n'y a pas eu 20 000 morts à Caen. Mais ça c'est un travail aussi qui mérite d'être souligné, parce que pendant longtemps on a parlé des opérations militaires, c'est évident que c'était très important. On a aussi dit, oh, les civils ont accueilli à bras ouverts les alliés. C'était plus compliqué que ça. Pour vous reparler encore de ma maman, quand elle est rentrée en mois de septembre, la maison avait été pillée, et ma maman m'a dit quand on est rentré, la maison avait été pillée peut-être par les Allemands, peut-être par des Anglais, peut-être par les voisins.
Oui, c'est ça. Il y avait évidemment le doute, et voilà. Et c'est dans ce maelstrom, pour reprendre le terme de Jean-Christophe Rosé. Merci d'avoir appuyé en tout cas cette bibliographie. On fait des ponts dans cette heure dédiée entre la mémoire aujourd'hui, la transmission, et puis la réalité des opérations. Et là, je voudrais vous donner encore la parole quelques instants. Bruno Falba, vous à qui l'on doit ces 6 tomes de l'opération Overlord, en BD, édité chez Glénat. Notamment, on a lors des opérations de parachutage des divisions aéroportées, cette scène de l'heure, les alliés qui parachutent des mannequins, des pantins qui sont à peu près la moitié moins grands qu'une taille humaine, et qui sont en fait en toile et en sable, et qui sont des leurres pour l'ennemi allemand.
Oui, qui c'est assez intéressant de voir des petits mannequins en fait qui ont complètement déstabilisé aussi les forces allemandes.
Oui.
Ils n'ont pas compris exactement ce qui se passait. Donc, ils n'ont pas pris au sérieux véritablement les premiers instants de délargage. Mais bon, ça a vite basculé après, lorsqu'ils ont réussi à arrêter quelques soldats et les faire prisonniers, les faire parler, bien qu'ils n'ont pas trop dit ce qui se passait.
Oui, on était en tout cas dans la stratégie de l'heure et de diversion, Marc Laurenceau, très étudiée par les alliés. C'était au millimètre, hein.
Exactement.
Oui, absolument. Et cette opération qui est l'opération Titanic, hein, en fait, va occasionner un largage d'environ 500 de ces parachutes en toile de jute, et qui vont se faire à des endroits particulièrement différents de la Normandie. Alors, il y en a qui seront dans la région du Havre, d'autres sud des plages du débarquement. avec même des dispositifs sonores parfois pour faire croire à en fait des tirs, des bruits d'armes automatiques. Et donc, ça va ajouter au désordre général. Les Allemands vont être dans l'expectative. Ils vont se demander ce qui se passe exactement. Il y a des vrais parachutistes qui sont parachutés à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc, les parachutes en toile ajoutent au désordre. Il va considérablement aider les Alliés le 6 juin.
Voilà, dans la confusion générale est bien orchestrée. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve dans un instant. Thierry Geffrotin, je vous libère parce que vous devez reprendre votre rôle heure par heure, nous donner justement le timing et l'état des deux côtés, à la fois des Alliés et des Allemands, de ce jour le plus long. Merci beaucoup Thierry. Je salue Bruno Falba, dont vous pouvez retrouver les 6 tomes de la BD Opération Overlord chez Glénat, vous qui êtes également libraire à Toulon, et je connais votre librairie, la librairie Falba. Allez-y, c'est très intéressant aussi de voir dans la spécialisation ce qu'on peut trouver sur différentes thématiques très contemporaines aussi aujourd'hui en BD. Merci et à tout de suite sur Europe 1. C'est du Maurice Jarre, extrait du jour le plus long, ce thème évidemment, voilà, qui a été diffusé et transmis de génération en génération. Vous avez grandi aussi dans ce souvenir, j'imagine, Jean-Christophe Rosé, pour vous passionner autant comme réalisateur, comme documentariste pour cette période de l'histoire. Un petit mot, parce que c'est aussi très très fort dans les documentaires qui y sont dédiés à ce jour J, c'est que si tout s'était déroulé comme prévu, les Alliés auraient libéré dès le premier jour une bande de 15-20 kilomètres. Finalement, les hommes ont bien débarqué avec des pertes humaines, hélas, mais se sont enfoncés progressivement dans les terres bien moins rapidement que prévu.
Oui, d'abord, je voudrais dire une chose qu'on oublie souvent. C'est que ces jeunes types qui étaient dans des barges qui venaient du Missouri, de toutes ces campagnes américaines, ne savaient pas du tout ce qui les attendait quand ils mettraient le pied sur le sol de France. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas du tout à être pris comme ça dans un déluge de feu et voir leur première vague pulvérisée. Donc après ce cataclysme, cette surprise incroyable, bien tout restait à faire. Ils avaient débarqué, mais il fallait conquérir les principales villes, il fallait conquérir la Normandie, on s'attendait aussi à des contre-attaques allemandes. Et donc, tout avait été planifié dans ce sens-là, et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Camp qui devait être prise quasiment le jour même ou le lendemain, a été pris un mois après, pour des raisons stratégiques, notamment parce que Montgomery était adepte d'une tactique qui faisait qu'il n'allait de l'avant que quand il était sûr de lui, quand il était en nombre et tout. Donc il a beaucoup attendu. Camp a été pris beaucoup plus tard. Les Allemands ont résisté. Cherbourg n'a pas été pris immédiatement. Une fois qu'on a pris Cherbourg, on a été bloqué en haut de la péninsule, justement parce que Montgomery n'arrivait pas à prendre Camp. Et tout ça a pris 3 mois. Et c'est déroulé dans un timing beaucoup plus long que prévu. Donc au départ, il y a eu tous les aléas de la météo, toutes les surprises, tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis après, il y a eu toutes les difficultés inhérentes à ce genre d'opération. À Romanche, ils ont construit dans la folie ces ports artificiels dont vous parliez, qui étaient des prouesses techniques invraisemblables. Pouf, il y a une tempête le 13, Hama est détruit. Donc tout ça fait qu'un débarquement s'inscrit aussi dans la vie et le tempo des hommes, et que rien ne peut être planifié définitivement.
Mais merci de reparler de ce sacrifice de ces jeunes hommes venus en effet des pays du Commonwealth, avec 20 000 pertes alliées et allemandes, mais 10 000 du côté de ces hommes qui vont débarquer sur les plages. La moitié de ceux qui seront parachutés d'ailleurs vont périr, parfois engloutis par Marc Laurenceau, par des matériels pesant 70 kilos. C'est ce qu'ils ont pu endurer, évidemment, étant en dehors de l'imaginable, mais ce sens du sacrifice, il faut le remettre évidemment 75 ans après en lumière.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, évidemment, dans notre confort quotidien. Mais quand on revient 75 ans en arrière, et c'est pas si loin que ça, finalement, non. On prend compte aussi de la fragilité de cette opération dans ce qu'elle aurait pu être. Et le général Eisenhower, qui était le commandant suprême des troupes à ce moment-là, au moment de voir les partir, d'ailleurs, il va rendre visite le 5 juin au soir à 21h aux parachutistes, parce qu'il sait que ce sont eux qui vont avoir le plus de pertes. il écrit dans la foulée un message qui a été conservé, dans lequel il prépare un discours dans lequel il annonce l'échec du débarquement et qu'il a mis à la poubelle, mais que son attaché a conservé, et dans lequel il prend l'entière responsabilité de l'échec, où il annonce que c'est lui l'unique responsable. C'est ce qui montre bien, en fait, le caractère indécis de cette opération. Tout pouvait basculer dans la minute, et le débarquement, malgré des mois et des années de préparation, pouvait échouer en quelques heures.
Merci Marc Laurenceau. Je renvoie à votre site passionnant d'idées-overlord.com. Merci de cette expertise ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci Jean-Christophe Rosé. Votre documentaire, notamment le 6 juin 44, La lumière de l'aube, est disponible en DVD et doit être diffusé aussi dans les classes, puisque nous parlons beaucoup de pédagogie aussi dans cette émission. À bientôt et à tout de suite sur l'antenne d'Europe 1 pour retrouver Thierry Giffretin.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.